Bonjour Saint-Étienne, bonjour le monde et bienvenue sur le 895 de Dio. Si vous nous rejoignez en ce jeudi 15 décembre 2022, nous sommes le troisième jeudi du mois et comme chaque troisième jeudi du mois, nous retrouvons l'émission mise en place depuis plusieurs saisons maintenant avec le GREMOS, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois. Une nouvelle émission, dernière de cette année 2022 d'ailleurs. Nous retrouvons pour cette émission deux invités ici au micro et au plateau que vous allez retrouver d'ici un instant. Il va être question de mémoire, bien entendu, ouvrière. Et nous allons remonter jusqu'en 1815, jusqu'à nos jours, 2022. C'est un ouvrage, La sidérurgie de la Loire, un ouvrage qui a été publié récemment et réalisé par Roland Fournel, qui est avec nous, et est un ouvrage préfacé par Georges Guay du GREMOS, membre actif bien entendu, qui était également présent au plateau de Dio pour présenter cette émission. Bonjour à vous deux.
Bonjour.
Bonjour.
Et bienvenue sur le 895 de Dio. Une émission à passer ensemble donc pour évoquer et présenter cet ouvrage, La sidérurgie dans la Loire, un ouvrage soutenu par l'ARRH, l'association ripagérienne des recherches historiques. On va en savoir davantage avec vous messieurs durant cette émission. On renvoie d'emblée également nos auditeurs auditrices via le site dédié du GREMOS, on le rappelle gremos.fr, tout accroché en minuscules pour avoir toutes les infos, les publications, les articles, des sources et ressources et autres actualités du GREMOS. Je vous laisse la parole, Georges et Roland, donc pour cette émission spéciale.
Bien, merci. Donc quelques mots tout d'abord pour présenter très rapidement cet ouvrage publié donc par les éditions Actes Graphiques avec le concours de l'association ripagérienne de recherche historique dont Roland Fournel est membre. Cette sidérurgie dans la Loire, avec un encadrement chronologique assez large, 1815-2022, c'est une synthèse qui vient combler une lacune, parce qu'en fait, cette industrie qui était très importante, qui avec des établissements étaient de très grande taille, qui ont marqué, qui marquent encore le paysage du bassin, qui ont employé une main d'œuvre assez considérable. Eh bien, cette industrie a été un peu, voire beaucoup, négligée par l'historiographie locale, et elle ne fait guère l'objet de valorisation mémorielle, à quelques exceptions près qu'on pourrait évoquer et dans le cours de l'émission. Alors, donc, un ouvrage qui vient combler une lacune, parce qu'il n'y avait eu aucune synthèse générale, pratiquement, depuis un vieil ouvrage, d'une vieille référence pour les érudits locaux, un ouvrage de Louis-Joseph Gras, qui était secrétaire général de la Chambre de commerce, qui avait publié en 1908 une histoire économique de la métallurgie de la Loire. On peut, dans cette catégorie, classer aussi, beaucoup plus récent, en 1988, une publication sous la direction de Jacques Roux et Philippe Mioche sur Henri Malcor, un héritier des maîtres de forge, qui est consacré à une histoire de la sidérurgie de la Loire entre l'immédiate avant-Seconde Guerre mondiale jusqu'à Creuse-Loire et la disparition de Creuse-Loire. Donc voilà quelque chose qui vient combler une lacune. Ensuite, eh bien, cet ouvrage présente un certain nombre de points d'intérêt. Tout d'abord, c'est une mise en contexte de cette industrie, une mise en contexte nationale, internationale, une activité qui est replacée donc sur un horizon plus général que l'horizon local. Une approche, par ailleurs, par l'intérieur des entreprises, à travers les bilans comptables, notamment, qui permet de cerner au plus près la vie de ces entreprises, qui ne se résume pas à une simple histoire technique, mais qui prend en compte aussi le contexte économique et les contraintes de financement. Enfin, l'utilisation de sources qui sont peu utilisées, et des sources originales, comme d'abord des revues professionnelles, le Journal des Mines, le Bulletin de la Société de l'Industrie Minérale, l'annuaire des fossés et surtout une source récente mise en ligne par les chercheurs de l'école d'économie de Paris qui est la base de données des FIH, ce qui veut dire, excusez-moi, pour la signification de l'acronyme, Data for Financial History, c'est-à-dire une base de données qui compile les données sur les sociétés cotées à la Bourse de Paris de 1795 à 1976. Alors, donc voilà tout un tas de raisons qui font que cet ouvrage présente un intérêt certain et qu'il nous permet d'approfondir la connaissance de cette industrie qui a fortement marqué le bassin stéphanois. Alors, la première question que je vais poser à Roland Fournel, c'est pourquoi s'est-il intéressé à cette sidérurgie qui, je le répète, a été longtemps négligée par l'historiographie locale et peu valorisée sur le plan mémoriel, à quelques exceptions près, l'exception la plus notable étant la réhabilitation du site des ex-aciéries de la marine, ex-Creusot-Loire, ex-Giat, etc., qui est sous le nom de Novaciérie à Saint-Chamond. Alors donc, pourquoi vous êtes-vous intéressé à cette sidérurgie du bassin de la Loire?
Je crois d'abord que vous avez apporté la réponse essentielle, c'est-à-dire c'est l'importance que ça a eu dans notre département pour l'économie et pour l'emploi. Maintenant, je pense que une autre façon de voir les choses, c'est qu'il est légitime de s'interroger sur la disparition justement de ces grandes entreprises, puisque ce n'est pas très ancien, à Firminy, à Unieux, à Saint-Étienne, à Saint-Chamond, etc. Et donc, on doit se poser ces questions. Ça paraît tout à fait normal. Alors, pourquoi cette histoire est négligée? En tout cas, pour la dernière période, c'est sans doute parce que les sources sont difficiles à rechercher. C'est-à-dire que c'est actuellement, pour ces usines de la Loire, c'est les grands groupes qui se sont emparés de la direction des entreprises et que ces grands groupes, ils ont une stratégie à l'échelle nationale et surtout internationale qu'il est difficile d'appréhender. Avec des changements multiples de mains de ces sociétés. Les archives elles-mêmes ne sont pas faciles à trouver parce que la plupart sont rassemblées à Roubaix, au musée aux archives du monde du travail. Voilà. Alors, c'est aussi, je rajouterai un dernier point, c'est aussi difficile parce que finalement, cette disparition ou quasi-disparition de la sidérurgie, c'est apparu pour beaucoup comme un échec. Et on a bien vu combien nos élus ont cherché depuis 40 ans à faire disparaître toutes les traces de cette industrie en démolissant les bâtiments, alors que peut-être bien souvent, comme ça a été dit à Saint-Chamond, on pouvait trouver une reconversion possible. Mais même chez les employés, chez les ouvriers, il y a un aspect psychologique, cet échec, cette perte d'emploi que beaucoup ont subi, c'est une histoire qui beaucoup veulent tirer un trait sur le passé, et c'est une histoire qui n'intéresse pas tout le monde. Voilà.
Oui, alors on reviendra sans doute sur ces questions-là dans la deuxième partie de l'émission, mais on peut d'ores et déjà dire qu'il n'y a rien de, il n'y avait rien de fatal dans la disparition de la sidérurgie dans la Loire, et que sans doute il vaut mieux, c'est une des explications que l'on peut avancer, il vaut mieux pas trop remuer cette histoire parce que la remuer, ce n'est pas toujours à l'avantage de certains acteurs qui y ont participé.
Oui, tout à fait. Alors, le livre ouvre un débat sur cette question, sur la disparition de Creusot-Loire, qui s'appuie essentiellement sur les recherches d'un universitaire de la Sorbonne qui s'appelle Beau, et qui montre qu'il est un homme qui a et exploiter les comptes et les rapports qui ont été faits sur, lors de la faillite de Creusot-Loire et qui montrent que probablement il y avait d'autres possibilités que celles de l'arrêt complet de l'entreprise et de sa vente en plusieurs départements.
Donc, bien, mais ça, on y reviendra sans doute un peu plus tard, mais d'ores et déjà, alors, revenons à votre livre. Et est-ce que vous pouvez donner quelques précisions sur la méthode de travail et puis le choix des sources et comment vous avez mobilisé ces sources?
La méthode de travail, ça a été d'essayer, comme vous l'avez un peu dit dans l'introduction, d'avoir d'abord une vision assez générale au plan du département, tout d'abord, parce que dans la Loire, il y avait de nombreuses entreprises, hein, à la différence d'autres départements comme la Saône-et-Loire, où l'entreprise était regroupée sur un même site. Ensuite, une approche également au niveau régional, par exemple le centre de la France, mais surtout une approche au niveau national, en voyant, par exemple, chaque fois l'importance qu'avaient les productions stéphanoises. Enfin, quand je dis stéphanoise, c'est le Grand Saint-Étienne, hein. C'est l'ensemble de la Loire, avait au niveau national. Et c'est également le fait qu'il faut s'intéresser à divers secteurs gouvernementaux, comme la politique menée en matière industrielle et en matière, par exemple, du ministère des Armées pour les commandes d'armement, puisqu'on sait que la Loire a eu un rôle important pour la production d'armement. Quant aux sources, disons, il faut, je crois, faut toujours essayer de se rapprocher des sources les plus fiables, c'est-à-dire les plus proches de la période qu'on utilise. Alors, personnellement, en dehors des productions que beaucoup connaissent, mais qui sont toujours très intéressantes, d'articles, de livres qui sont parus sur le sujet, sur des régions, sur des usines, etc., j'ai particulièrement, moi, prolongé mes recherches dans le domaine que vous avez évoqué, celui des productions des ingénieurs des mines qui travaillaient sur le secteur de la sidérurgie, à travers les documents que vous avez rappelés, les annales des mines, les statistiques de l'industrie minérale, les bulletins de la Société d'industrie minérale, qui était une société qui avait démarré à Saint-Étienne. Et ensuite, divers journaux économiques qui donnent des bilans, des appréciations qui ne sont pas toujours justes, mais qui font des commentaires sur ces bilans et sur la santé des entreprises. Ainsi que, bien sûr, sur ces données synthétiques du FIH qui fait la synthèse des chiffres d'affaires, des bénéfices, des dirigeants des entreprises, enfin de ceux qui étaient dans le conseil d'administration, sur une longue période, je ne me rappelle plus des parts exactes, mais depuis grosso modo 1875, jusqu'à presque deux jours, quoi.
D'accord. Cette question des sources, et tout historien le sait, est quelque chose d'essentiel. Mais je crois qu'il convient de saluer ici l'usage de ces sources, de sources originales, et surtout de sources renouvelées par la recherche universitaire. Et ce passage de travaux de la recherche universitaire sur un travail qui est un travail, le mot dans ma bouche n'est absolument pas péjoratif, d'amateur, mais au sens le plus noble du terme, je crois que c'est un élément qui est très intéressant dans votre travail, hein. C'est-à-dire, on dépasse les enfermements dans lesquels se placent parfois trop souvent, hein, les travaux de ce qu'on appelle, entre guillemets, les érudits locaux. Alors, ceci étant, justement, on s'adresse à un public qui n'est pas nécessairement un public de spécialistes, et il faut donc revenir sur quelques éléments assez simple. Et quelles sont les grandes phases de cette histoire de la métallurgie du bassin de la Loire, telles que vous les avez présentées, c'est-à-dire en allant au plus vite, quels sont les moments de rupture et qu'est-ce qui se passe entre ces moments de rupture et d'inflexion?
Alors, pour être très synthétique, on peut situer le démarrage de la sidérurgie dans la Loire au début du 19e siècle et plus particulièrement à partir de 1815. Pourquoi ? Parce que d'abord, il y avait une volonté politique, gouvernementale, de faire installer cette industrie en France, alors que à l'époque, pour utiliser du fer ou de l'acier, on faisait venir beaucoup de produits de l'étranger, notamment de l'Angleterre et de l'Allemagne. Si des industriels ont choisi la région de Saint-Étienne, c'est parce qu'on sait qu'à cette époque, c'était le principal département producteur de charbon, puisqu'il représentait environ 30% de la production nationale, et que pour, dans les procédés de fabrication de cette sidérurgie, on utilisait énormément de charbon. Alors qu'avant, on utilisait du charbon de bois, qui devenait de plus en plus cher, puisque les forêts étaient de plus en plus exploitées. Donc, les débuts de la sidérurgie, on peut les situer entre 1815 et 1850, avec une première phase assez difficile, mais qu'on développera peut-être tout à l'heure, de la période 1815-1830, où c'est pas facile de mettre en place une nouvelle industrie, et qu'il y a eu, on le verra, des écueils pour ces fabrications. Ensuite, il y a eu une période de très fort développement de 1815 aux années 1880-1882, parce que c'était une période où il y a eu, du point de vue économique, un fort développement de diverses industries. Alors d'abord, des moyens de transport, du chemin de fer notamment. Il y avait chaque année des centaines de kilomètres de lignes de chemin de fer qui étaient ouvertes. Donc il fallait fabriquer des rails, il fallait fabriquer des locomotives, des roues, des essieux, etc. Et tout ça, c'était un marché très très important. Il y a eu également un autre secteur qu'il faut signaler plus particulièrement, c'est celle de l'industrie de l'armement, parce que c'est à partir de ces années où on s'est mis à faire des protections des navires par des cuirasses, par des blindages, et que c'était cette époque aussi, on a construit beaucoup de canons, d'obus, etc., pour l'armée. Donc il y a aussi d'autres secteurs, comme la construction métallique, la charpente métallique qui commence à se développer. Mais voilà pourquoi cette époque a représenté une expansion très importante, puisque la Loire a présenté dans cette période environ 30% de la production d'acier en France. Ensuite, il y a eu une très grave crise qui est arrivée entre 83 et 86, qui est due à l'invention d'un nouveau procédé qui s'appelle Thomas Gilchrist, qui a permis d'exploiter le minerai de fer lorrain et de fabriquer tous les aciers ordinaires en Lorraine, alors qu'avant, beaucoup se fabriquaient dans la Loire. Et on a pu craindre à cette époque qu'il y ait une quasi-disparition de la sidérurgie dans notre département, alors qu'on verra qu'elle a subsisté, à l'exception d'une très grande entreprise qui s'appelait Terre Noire, La Voulte et Bessèges. Mais pourquoi elle a subsisté ? Parce que ces entreprises qui ont vu un très fort développement avaient d'abord acquis des techniques pour produire de l'acier de très bonne qualité, qu'on appelle des aciers fins, et puis avait aussi suffisamment de ressources, accumulé suffisamment de bénéfices pour pouvoir se reconvertir justement vers ces productions de haut de gamme. Et finalement, bien que le tonnage de leur production ait fortement diminué, puisqu'il a diminué à peu près de moitié si on raisonne en termes de tonnage, ces entreprises qui fabriquaient des fabrications de haut de gamme, dans lesquelles les marges bénéficiaires sont plus importantes que dans les produits ordinaires, on peut retrouver un renouveau. C'était un nouveau départ de la sidérurgie dans notre département. Ensuite, on arrive à la guerre de 14, c'est une période très particulière, les guerres, bien sûr. Je n'ai pas évoqué celle de 70, mais c'est surtout la guerre de 14 et la Deuxième Guerre mondiale qui comptent. la guerre de 14, où il y a eu un développement fantastique des productions d'armement dans la Loire et puis dans le centre de la France également. Mais dans la Loire, c'est bien connu, ces entreprises, les grandes et les petites d'ailleurs, se sont consacrées entièrement à la production d'armement, ce qui a généré des bénéfices considérables, ce qui a eu pour effet, bien sûr, à la fin de la guerre, de rechercher une reconversion, puisqu'on ne peut pas fabriquer sans arrêt des armes en très grande quantité. Donc, la Première Guerre mondiale a une période très spéciale. Ensuite, on a eu l'entre-deux-guerres, qui a été marqué par, qu'on peut diviser en trois phases, une période de reconstruction de 1919 à 1922, une période de forte croissance, une nouvelle période de forte croissance de 1922 à 1930, et puis la forte crise de 1930, qui est une crise internationale et qui a touché presque tous les secteurs de l'économie, mais notamment la métallurgie et la sidérurgie, et qui a fait que des entreprises se sont trouvées en difficulté, en tout cas et notamment la grande usine, la grande compagnie de Firmini.
Et alors on arrive donc à l'après-guerre.
On arrive à alors après, il y a eu la Deuxième Guerre, mais là, on va passer rapidement parce qu'on sait que l'industrie était mise au service des Allemands, hein, et que les industriels souvent n'ont pas eu le choix puisque les Allemands occupaient notre territoire. Et après, on tombe à l'entre-deux-guerres après la Deuxième Guerre mondiale, à la grande période des concentrations qui se passe en deux phases. Hein, la première phase s'appelant la CAFL, la Compagnie des Ateliers des Forges de la Loire, qui regroupait les grandes usines de la Loire, que j'ai déjà évoquées tout à l'heure. Et la deuxième phase de la concentration a consisté en créant Creusot-Loire à partir de 1970 jusqu'à 1984, en regroupant la CAFL avec les sociétés de la Saône-et-Loire qui appartenaient au groupe Schneider et qui étaient une entreprise concurrente. Voilà un petit peu quelles sont les grandes phases, avec l'arrêt, bien sûr, brusque en 84 de Creusot-Loire, mais peut-être que nous en reparlerons.
Oui, bien sûr. Hein, alors, donc, une sidérurgie aujourd'hui, donc il ne reste que quelques vestiges actifs, hein, le principal étant l'usine d'industrie, la Rive-de-Gier,
voilà.
Qui est l'héritière d'une de ces grandes usines nées au 19e siècle.
Alors, pour produire d'acier, effectivement, il y a deux usines dans la Loire, une à Rive-de-Gier, enfin plus exactement à Châteauneuf, mais c'est une commune limitrophe de Rive-de-Gier, et les emplois sont souvent concernent les habitants de Rive-de-Gier. Donc une à Feur et à Rive-de-Gier, Industil, c'est effectivement l'héritage de l'entreprise Marel, qui a été très importante, puisqu'au moment de sa fusion avec Creusot-Loire, il y avait 1800 emplois. Maintenant, il y a 300 emplois à Châteauneuf et 50 emplois à Saint-Chamond. Mais c'est une usine qui était en difficulté, mais qui pourrait avoir un renouveau parce qu'elle a une fabrication de niches, une fabrication très spéciale, très particulière, avec son four électrique et un laminoir de très grande dimension qui permet de traiter des tôles dites lourdes, c'est-à-dire très épaisses, hein, qui peuvent faire jusqu'à 1 mètre d'épaisseur, ce qui est énorme, et qui permettent de faire des fabrications très spéciales qui peuvent être y compris exportées aux États-Unis et même en Chine.
Oui, un outil industriel dont on dit qu'il y en a très peu sur l'ensemble de la planète, hein, d'équivalents, hein, et qui doivent se compter sur, en gros, les doigts des deux mains, quoi, en étant optimiste, pour avoir des usines capables de ces mêmes productions. Hein, voilà. Alors, qui est un atout, mais en même temps peut-être une fragilité, mais on y reviendra ultérieurement. Alors, revenons sur les débuts. Alors, les débuts, loin d'une révolution industrielle triomphante, s'affirmant brutalement et renversant tout sur son passage, on s'aperçoit que ces débuts sont des débuts extrêmement laborieux. Laborieux parce que d'abord, eh bien, ce sont des techniques qu'on ne maîtrise pas vraiment, Hein. Et d'autre part, eh bien, on se heurte à l'insuffisance aussi des capacités de financement. C'est-à-dire qu'on on navigue un petit peu à vue et on, très souvent, on se retrouve au bout de quelques mois, quelques années de fonctionnement sans résultat positif et en quête de nouveaux financements pour poursuivre l'expérience. Alors, que pouvez-vous nous dire là-dessus ?
Alors, tout à fait, vous avez cité deux raisons, hein, des débuts difficiles. Alors, pour le manque de financement, c'est le cas très précis des Jackson, hein, qu'on cite souvent, qui sont des Anglais, qui sont venus fabriquer de l'acier fondu dans la Loire, et plus particulièrement dans la vallée de l'Onden. Donc, qui n'ont pas eu les moyens de développer leur entreprise, jusqu'en 1830. Mais une autre raison essentielle, c'est aussi le fait que cette industrie sidérurgique a été installée avec l'idée, je le disais tout à l'heure, de trouver à bon prix et en abondance du charbon, mais aussi bien sûr du minerai de fer, puisque pour faire du fer et de l'acier, il faut du minerai de fer. Et ce minerai de fer, on pensait le trouver dans les couches de charbon stéphanois, et en fait, et c'est notamment un ingénieur qui s'appelle De Galois qui avait proposé, on savait qu'il y avait du fer, mais c'est lui qui pensait qu'on pouvait l'exploiter pour fabriquer de l'acier, et on s'est aperçu finalement très rapidement, puisque c'est un ingénieur avec des capitaux à créer la compagnie des mines de fer, et bien que ce minerai est insuffisant en qualité et en quantité, ce qui fait que la production que réalisait cette usine, qui était installée à Terre-Noire, était largement déficitaire pendant plusieurs années et qu'elle a dû s'arrêter finalement très rapidement. Alors, quand on a vu que ce minerai de fer était insuffisant, on est allé le chercher bien sûr ailleurs et notamment plus particulièrement en Ardèche, par exemple à La Voulte et au Pouzin. Mais le charbon venait bien de la région de Saint-Étienne ou du Gier. Mais bien sûr, ça rendait les productions plus onéreuses, hein, parce que le coût du transport était à cette époque assez élevé. Et il a fallu attendre effectivement 1830 parce que, d'une part, avec le début, enfin surtout les années 1840-1850, le chemin de fer a permis d'abaisser fortement les coûts. Mais aussi, il y a eu dans les machines qui étaient utilisées, notamment les hauts fourneaux, beaucoup de progrès en utilisant, par exemple, de l'air chaud au lieu de l'air froid pour alimenter le foyer des hauts fourneaux. Et ensuite, aussi, un progrès pour la fabrication du coke, dont le coût a été baissé de moitié. Au début, on le fabriquait en plein air, alors qu'après, on le fabriquait dans des fours, ce qui a permis d'améliorer nettement la situation. Oui. Voilà les raisons d'un démarrage, les raisons essentielles d'un démarrage difficile.
Et alors, du minerai de fer qu'on va chercher dans la vallée du Rhône en Ardèche, hein, mais qu'on va chercher aussi parfois plus loin dans le bassin méditerranéen, en Sardaigne, voire en Afrique du Nord, dans la région aujourd'hui d'Annaba, hein, dans l'est de l'Algérie, qui a cultivé des liens avec la sidérurgie stéphanoise par le biais des intérêts qui avaient pris les entreprises locales et qui n'étaient pas négligeables. Alors, ceci étant, avant d'aller plus loin. Revenons sur cette crise de 1883-86 et les recompositions qu'elle entraîne. Alors, il y a deux choses. Vous avez évoqué la faillite de Terre-Noire. Et Terre-Noire, c'était quand même, si vous pouvez nous en dire quelques mots très rapides, la grande entreprise sidérurgique du moment, hein, de la fin du Second Empire, début de la Troisième République, qui avait une position dominante dans le paysage national, au-delà du paysage national.
Ah, tout à fait, parce que la compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries de Terre-Noire, La Voulte et Bessèges, c'était, je ne sais pas la situer au niveau national, mais c'était de toute évidence la compagnie la plus importante au niveau du sud-est de la France. Et on a de nombreux rapports des ingénieurs des mines qui décrivent cette compagnie qui était impressionnante par ses installations, hein, c'est-à-dire, pour ne citer que deux, trois chiffres, hein, ils avaient 19 hauts fourneaux répartis sur plusieurs sites. Il y en avait 4 dans la Loire. Ils avaient un très grand nombre de laminoirs. Ils avaient toutes les machines nécessaires pour fabriquer le fer. Et c'était une compagnie qui était en plus très inventive pour toutes les fabrications. Et c'est même... C'est très étonnant qu'ils n'aient pas... C'est certainement pour des raisons essentiellement financières qu'ils ont périclité, parce que les actionnaires ont probablement été trop gourmands et ils n'ont pas eu la capacité, comme les autres usines, de pouvoir se reconvertir dans des fabrications de haut de gamme.
Oui, tout à fait, hein, parce que le terre noire, contrairement à... une illusion qu'on pourrait avoir, ne tombe pas pour des raisons qui sont ceux de mauvais choix techniques, hein, dans la mesure où cette société avait déjà anticipé très largement le virage vers les productions spécialisées dès avant 1880, et avait développé, vous avez parlé de grande inventivité de l'entreprise, et avait développé la fabrication d'aciers spéciaux, la recherche métallurgique, etc.
Et puis à l'opposé, par exemple, le contraste avec l'autre grande société, puisque les deux plus grandes, c'est la compagnie de Saint-Chamond, hein, qui s'appelle Compagnie des hauts fourneaux, forges et aciéries de la marine et des chemins de fer, qui, dès 1880, c'est-à-dire avant le début de la crise, on devait en sentir les prémices, mais elles ne se faisaient pas sentir en termes de production, qui a eu l'idée de fabriquer ces aciers ordinaires près de Bayonne, hein, dans un secteur où le minerai de fer venait à ce moment-là d'Espagne, et le charbon même d'Angleterre,
oui.
Et abandonné, donc c'est une époque où les sociétés ont abandonné les outils qui leur permettaient de fabriquer en grande quantité l'acier, hein, c'est-à-dire les fours Bessemer, les convertisseurs Bessemer plutôt, et qu'ils ont installé des fours qui s'appellent fours Martin-Siemens, on dit souvent Martin seulement, qui permettait de faire un acier de haute qualité, parce que c'est un processus de fabrication qui est plus lent, qui est plus contrôlable, et qui permet de mieux doser les aciers, de proposer une gamme étendue de produits de bonne qualité.
Et alors, donc, cette compagnie des aciéries de la marine et des chemins de fer, hein, donc qui devient la société dominante, invente en quelque sorte la sidérurgie sur l'eau, hein, on va dire, avec presque un siècle d'avance, en s'installant à Bayonne. Elle tourne le dos aux implantations géographiques anciennes de la métallurgie de la Loire, hein, qui était tournée vers la vallée du Rhône, on l'a dit, vallée du Rhône, bassin méditerranéen. Là, elle bascule sur la façade atlantique. Et puis, elle va préparer un basculement d'encore plus grande importance au début du XXe siècle, en rachetant une société lorraine et en changeant de nom, en devenant les Aciéries de la Marine et d'Omécourt, et une société de Lorraine donc basée à Omécourt, et donc qui enclenche qui laisse présager un changement de stratégie de l'entreprise, sans doute, et dont on reparlera par la suite, hein, dont on va reparler. Hein, mais en attendant, eh bien, puisqu'on évoquait la Lorraine, on va écouter peu de chansons sur la métallurgie stéphanoise, peu ou pas. Par contre, un Stéphanois qui a chanté une des grandes vallées métallurgiques, grandes vallées sidérurgiques de la Lorraine.
Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens donc grand shooter du désespoir, viens donc visiter mes laminoirs. Viens donc chevaucher les grands rouleaux et te coincer la tête dans un étau. Viens petite femme de Saint-Tropez, nous on fume la cam par les cheminées. Et si le bonheur n'est pas en retard, il arrive avec son gros cigare. Viens dans ce pays. Viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite bourgeoise demoiselle, visiter la plage au devin d'elle. Ici pour trouver l'Eldorado, il faut une shooteuse ou un marteau. La vallée de la French, ma chérie, c'est le Colorado en plus petit. Y'a moins de chevaux et de condors, mais ça fait quand même autant de morts. Une belle femelle de métal, je t'invite dans mon carnaval. Ici la cadence c'est vraiment trop, ici y'a pas de place pour les manchots. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur mes bras comme tous des corps. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Tu ne connais pas mais t'imagines, c'est vraiment magnifique une usine. C'est plein de couleurs et plein de cris, c'est plein d'étincelles surtout la nuit. C'est vraiment dommage que les artistes qui font le spectacle soient si tristes. Autrefois il y avait des rigolos, ils ont tous fini dans un lingot. Le ciel a souvent des teintes étranges, le nom des patelins se termine par ange. C'est un vieux pays pas très connu, y a pas de touristes dans les rues. Viens dans mon pays, viens voir où j'ai grandi. Tu comprendras pourquoi la violence et la mort sont tatoués sur ma peau comme tout ce décor. Pour tout leur pardonner et me tenir tranquille, il faudrait renier les couteaux de la ville. Viens petite sœur au blanc manteau, viens c'est la balade des copeaux. Viens petite girl in red blue jean, viens c'est la descente au fond de la mine. Viens c'est la descente au fond de la mine.
Le Stéphanois Bernard Lavillier, bien sûr, qui a chanté certes Saint-Étienne, mais qui chante aussi la French Valley, en effet. Vous êtes bien sur le 895 de Dio dans l'émission mensuelle du Grémos, le groupe de recherche et d'études sur les mémoires du monde ouvrier stéphanois, consacré pour ce mois de décembre et dernière émission de cette année 2022, eh bien à cet ouvrage La sidérurgie de la Loire, 1815-2022, écrit par Roland Fournel, invité de notre émission, présenté par Georges Guay, qui a d'ailleurs préfacé cet ouvrage et qui présente et anime cette émission.
Bien, donc on quitte la vallée de la Fench, hein, cette vallée de la Fench qui a été connue par l'actualité avec la fin de l'usine à chaux de Florange, hein, et il n'y a plus aujourd'hui de production d'acier de fonte dans la vallée de la Fench, plus de hauts fourneaux. Et les sociétés, eh bien, comme ici dans la Loire, hein, elles n'appartiennent plus. Il n'y a plus les Devindel, hein, mais c'est Mittal ou d'autres noms qui sont d'ailleurs aussi. Il y a Tata Steel, par exemple, hein, qui est d'autres noms, donc et de groupes internationaux qui contrôlent cette production, ce qui reste de cette activité. Alors, comment en est-on arrivé là? C'est ce qui va nous intéresser dans cette deuxième partie, hein, de l'émission. Et tout d'abord, sur cette réorganisation de la sidérurgie de la Loire, avec une réflexion et une question que je vais poser à Roland Fournel. Donc, classiquement, on peut dire... On dit que la grande bascule, c'est la constitution, le regroupement de ces sociétés qui, pour beaucoup, étaient des sociétés familiales, hein, contrôlées par des familles, comme par exemple Holzer à Unieux, Marel à Rive-de-Gier, ou encore les aciéries de Saint-Étienne, contrôlées par la famille Chollat. Ces sociétés familiales basculent donc dans la constitution, dans un regroupement au sein de CAFL, donc en 1953, si je n'ai pas trop perdu la mémoire. Bien, ceci étant, on peut quand même aussi, on a vu que Marine, par exemple, s'oriente, se réoriente vers vers la Lorraine dès le début du XXe siècle. Hein, là aussi, si je ne me trompe pas sur la date, c'est en 1908. Et que cette stratégie de marine est restée quand même assez longtemps une stratégie à cheval sur la Loire et la Lorraine. Et dans l'ouvrage de Jacques Roux et Philippe Mioche, Henri Malcor dit que finalement, dans les grandes manœuvres qui se mettent en place dès la période de la guerre, hein, sur la réorganisation de la sidérurgie pour l'après-guerre, lui, sa préférence allait à une association et à un recentrage sur la Lorraine, ce qui n'a pas été possible. Et donc, Creuse-Loire, c'est plutôt une solution de repli, CAFL est plus une solution de repli que véritablement une solution qu'on pourrait appelée proactive de la part de ses dirigeants d'entreprise. Alors, Creuse-Loire, CAFL, pardon, j'y tiens, à Creuse-Loire. CAFL, qu'est-ce qu'on peut en dire de cette période CAFL qui dure en gros du début des années 50 jusqu'en 1970?
Ce qui explique la création de la CAFL dans l'immédiate après la Deuxième Guerre mondiale, c'est plusieurs éléments. C'est d'abord le fait que des grandes sociétés qui avaient des usines en Lorraine ou dans le Nord, comme Marine et Marine Homecourt, et puis aussi la société de Firmini, qui avait dès la Première Guerre mondiale construit une usine près de Dunkerque, aussi Marine Homecourt avait bien sûr cette grande usine de Homecourt qu'il fallait reconstruire après la Deuxième Guerre mondiale. C'est-à-dire qu'ils avaient bâti une usine très importante de production de fonte à Homecourt, et les Allemands, pendant la Deuxième Guerre mondiale, ont détruit cette usine, et puis le matériel qui restait en bon état, ils l'ont emporté chez eux. Donc ils ont dû réinvestir très fortement pour reconstruire ces usines, qui étaient un point tellement important que, par exemple, avant la Première Guerre mondiale, Marine Homecourt était le plus grand fabricant, presque, ou en tout cas l'équivalent de Wendel pour la production de fonte et d'acier. Donc, comme ils ont beaucoup investi, ils n'avaient peut-être plus beaucoup d'argent pour moderniser les usines de la Loire, parce que dans les périodes de guerre, la modernisation, elle laisse souvent à désirer. Et donc, c'est apparu comme une nécessité absolue de regrouper ces usines qui étaient auparavant souvent concurrentes sur les mêmes marchés, qui avaient souvent les mêmes outils et qui commençaient de plus donc à être vieillissantes, quoi. Donc, cet accord, finalement, s'est fait assez rapidement à partir de l'année des années 1952-1953, puisque tous les directeurs ont donné leur accord. Et en plus, on y était poussé par la politique française et européenne. C'était les débuts de la CECA, et souvent, pour reconstruire les usines ou les moderniser, il fallait obtenir des crédits de l'État. Et l'État fermait le robinet s'il n'y avait pas cette idée d'une concentration des compagnies. Donc voilà les conditions dans lesquelles s'est créée la CAFL, qui regroupait donc les cinq usines importantes dans la Loire, avec un effectif d'environ 15 000 personnes.
Oui, c'était considérable quand même.
Et qui a eu une phase pas facile, mais qu'elle avait bien entamée, de réorganisation des productions, de spécialisation des usines.
Et quelles étaient ces usines de CAFL, donc
Alors, les usines de CAFL, les deux principales, c'était l'usine de Firmini,
oui, qui regroupait les anciennes aciéries de Firmini.
Qui avait presque 9000 emplois. L'usine de Saint-Chamond, qui était aussi importante, mais qui avait, dans la vallée du Gier, il y avait aussi des dépendances à Onzion, La Péronnière. Donc il y avait des usines secondaires qui étaient liées au même groupe. Et puis aussi les aciéries de Saint-Étienne, qu'on appelle souvent le Marais ou Barouin, du nom du fondateur. Et puis, il y avait l'usine du Nieux, que vous avez nommée, qui était l'usine d'Holzer, qui avait eu toujours une grande activité également. Donc, c'était une période qui a été de grande réorganisation, qui a été menée essentiellement par un dirigeant qui s'appelait Malcorme, enfin, ce n'était pas le seul, mais disons, il a joué un rôle essentiel et qui a fait l'objet du livre très intéressant que vous mentionnez en introduction. Là.
Et alors, comment passe-t-on de CFL à Creuse-Loire et pourquoi ?
Ben pourquoi, c'est toujours pour les mêmes raisons, essentiellement financières. C'est-à-dire qu'à un moment, les financements, ils ont manqué et le gouvernement, l'Europe a poussé très fort pour faire regrouper toutes les installations de la Loire en matière de sidérurgie avec celle de la Saône-et-Loire, donc celle qui était dirigée par le groupe Schneider. Alors cette entente, elle est venue dès la... On peut dire qu'elle a été évoquée bien avant l'arrêt de la CAFL, mais les contacts ont été difficiles, les négociations ont été difficiles, parce que c'était deux groupes concurrents quand même. Hein. Et donc il a fallu plusieurs années pour essayer de se mettre d'accord sur les spécialisations, sur les productions à conserver ou sur les productions qui n'étaient plus... et sur la rentabilité plus ou moins forte de certaines productions. Et donc c'est arrivé dans les années 70 hein, pour... Et la restructuration, cette fois, a continué à une échelle régionale. Ouais. Donc... cette restructuration s'est assez bien faite avec des résultats qui n'étaient pas phénoménaux mais qui restaient positifs dans les années 1976. Mais après cette période, on est retombé dans une crise aussi difficile qui était la crise pétrolière qui s'est fait sentir un peu plus tard dans la sidérurgie à partir de 1976. Qui a été très difficile. Et en même temps que cette crise financière difficile, il y a eu, disons, un problème de gouvernance hein, au sein de cette société Creuse-Loire, qui était une société qui regroupait à égalité ces deux grands groupes, le groupe Schneider et le groupe des usines de la Loire, qui avait comme société mère Marine Firmini, c'est-à-dire la holding, les financiers qui les dirigeaient. Et donc, il y a eu un problème très sérieux, toujours dans la même période, 73-74, par le fait que le principal actionnaire du groupe Schneider, qui était le baron Ampin, s'est mis à acheter de façon irrégulière des actions de Marine Firmini pour en prendre la direction, pour en prendre la majorité. Et donc, il y a eu un procès, s'en est suivi un procès. Finalement, donc, Ampin a dû revendre ses actions. Et à ce moment-là, on est passé dans les mains du groupe de Wendel. Et donc, à partir de cette époque, c'était donc deux groupes essentiellement qui dirigeaient ces Creuse-Loire. C'était le groupe Schneider qui avait obtenu l'obtention d'une direction exclusive de la direction, alors qu'avant c'était partagé avec les dirigeants d'avant de la CAFL. Et le groupe de Wendel est resté à part égale presque avec Schneider. Et donc à partir de ce moment-là, on peut dire que la stratégie s'est faite au niveau national, puisque ces usines, ces groupes de Wendel et Schneider, avait une stratégie qui dépassait largement le niveau local. Quoi. Et en plus, ce qui a aggravé les choses, c'est qu'à un moment, au début du groupe Schneider, c'était des ingénieurs qui avaient des qualités et des défauts, mais ils avaient la qualité de connaître bien leur métier. Et les défauts, c'était d'avoir fait des acquisitions parfois un peu hasardeuses, notamment aux États-Unis. cette grande société qui avait 30 à 40 000 emplois en moyenne, puisque des fois ça variait de 30 000 à 50 000, et qui avait une cinquantaine de filiales en France, eh bien, elle s'est trouvée à un moment, c'est un financier plutôt qui en a pris la direction et qui a pris la direction absolue à la fois de Creusot Loire et du groupe Schneider. Ce financier s'appelait Didier Pinault-Valenciennes. Et c'est un homme qui, on peut le penser, ne croyait pas trop à l'avenir de Creusot Loire et à l'avenir de la sidérurgie. Il voyait son développement dans d'autres secteurs industriels, notamment l'électricité. Et assez bizarrement, d'ailleurs, il croyait assez peu au nucléaire, alors que c'était un des fleurons, un des secteurs d'activité importants, en tout cas un secteur de savoir-faire très important qui faisait partie de l'entreprise Creusot Loire. Donc on s'est débarrassé progressivement de la sidérurgie en la cédant au groupe Usinor, pas entièrement, mais en grande partie, notamment l'usine du Marais et puis l'usine des Dunes dans le Nord. Oui, oui. Et puis, cet homme aussi a joué un rôle très dangereux en aggravant les comptes de la société.
Jouer un peu une partie de poker menteur avec les services de l'État.
Voilà. En aggravant les bilans, en y inscrivant des réserves, des déficits, des réserves qui n'étaient pas justifiées, parce que certaines peuvent l'être, d'autres le sont moins. C'est ce qu'a démontré cet universitaire après l'examen des comptes. Tout ça s'aboutit à un jeu dangereux avec le gouvernement. À l'époque, c'était devenu le gouvernement socialiste, qui a proposé un plan de redressement. Mais les actionnaires de Schneider et de Wendel n'ont jamais voulu augmenter leur participation. C'était une des conditions du plan gouvernemental. Et donc, tout ça aboutit à une catastrophe qui est celle de la faillite et de la disparition de Creusot Loire en 1984.
Oui, une disparition de Creusot Loire, d'ailleurs, qui touche inégalement les sites du bassin, puisque un certain nombre, vous l'avez déjà dit, toute la sidérurgie avait été reprise par Usinor antérieurement à la faillite. Et donc l'usine du Marais, et partiellement celle de Firminy, n'était plus dans le giron de Creusot Loire.
Tout à fait, mais Usinor aussi, après, oui, N'a pas joué un rôle très positif pour ces usines. Alors, à travers des mouvements qu'il est peut-être difficile d'évoquer rapidement ici. Quoi. Alors, il y a eu par contre des départements de Creusot Loire qui ont bien survécu, oui, hein, qui ont été revendus, qui ont été rachetés, des fois par des ingénieurs, des fois par des groupes. Et on peut en citer peut-être trois. Hein, deux dans la vallée du Gier, il y a le groupe Olotte,
oui,
qui était très modeste au départ et qui maintenant est une entreprise qui fabrique des nacelles élévatrices qui se situe au niveau européen, au moins, peut-être mondial. Oui. Et puis, il y a aussi l'entreprise Marine Firminy qui fabrique des centrales d'enrobés mobiles,
oui,
qui a aussi de très beaux résultats. Et puis, il y a dans la vallée de Londen, il y a aussi une usine qui fabrique des extrudeuses,
oui,
Clextral, qui aussi a une bonne position. Voilà, c'était des entreprises qui étaient intégrées avant, des secteurs d'activité plutôt, qui étaient intégrés à Creusot Loire.
Alors voilà, toute une histoire qui se termine dramatiquement. Hein, une histoire qu'il est important de connaître, parce que c'est d'abord l'histoire, c'est une partie intégrante de l'histoire de la région. Ça permet aussi de comprendre aujourd'hui un certain nombre de choses concernant l'activité économique, bien sûr, hein, mais aussi des caractéristiques qui sont beaucoup plus matérielles, hein, la présence ici ou là de telle ou telle usine, telle forme d'organisation spatiale, hein, etc., qui font partie de la vie quotidienne et dont on ne connaît pas toujours les tenants et les aboutissants, l'origine. Par exemple, ce grand site dit de Novaciri aujourd'hui,
résumé d'une façon un petit peu rapide sous le terme de ex-site Giat. Mais en fait, le Giat a été le dernier occupant de tout ça, le point de la terminaison d'une histoire qui est plus que séculaire. Et donc, vous racontez là-dedans, dans ce livre, sur la sidérurgie de la Loire. Alors, ceci étant, dans un ouvrage précédent, qui s'intitulait « Compagnie minière et mineurs du Gier », vous vous étiez beaucoup intéressé aux mineurs, à la main-d'œuvre, en déconstruisant par ailleurs certains mythes de la profession, en montrant toute la réalité, difficile, tragique souvent. Et ici, dans cet ouvrage-là, eh bien, les ouvriers, la main-d'œuvre est peu présente. Alors,
eh bien, écoutez, vous avez raison, c'est un point faible certainement de mon travail, hein, tout simplement parce que, même si c'est un travail qui a duré plusieurs années, les sources que j'ai utilisées évoquent plus peu la question sociale. J'ai néanmoins, chaque fois que j'ai pu trouver des informations intéressantes, décrit des conditions de travail, décrit des salaires, décrit parfois des mouvements sociaux comme des grèves, mais c'est vrai que sur ce plan-là, le travail reste à faire. Hein, donc ça m'aurait demandé un investissement beaucoup plus important pour aborder cette question de façon plus riche et de façon plus complète, quoi. Voilà, on ne peut pas tout faire dans un même travail.
On ne peut certes pas tout faire. Hein, et le temps, malheureusement, n'est pas quelque chose d'extensible. Et le temps perdu ne se rattrape jamais.
Ça ne veut pas dire que je ne suis pas sensible à cette question.
Mais on a bien compris cela. Mais il en reste néanmoins que même pour une association qui s'intéresse à la mémoire des mondes ouvriers, stéphanois, eh bien, cet ouvrage qui n'est pas, qui n'aborde que marginalement les mondes ouvriers, ou plutôt les aborde en creux, cet ouvrage reste quand même quelque chose de d'essentiel, hein, pour cette approche, justement, de l'histoire des mondes ouvriers. Donc, quels seraient pour vous les prolongements qu'on pourrait lui donner
Les prolongements, c'est d'abord d'utiliser les archives que je n'ai pas pu consulter, qui sont celles qui ont été rassemblées à Roubaix par les archives nationales du monde du travail. Parce que le groupe de Wendel qui a finalement récolté toutes les archives les a placées là-bas. Et on trouverait une information plus fine en examinant les rapports des conseils d'administration, des assemblées générales. Alors ça ne suffit pas, mais c'est quand même des informations de premier plan. Voilà. Alors il y a quand même des informations au plan local qui sont intéressantes, hein, notamment aux archives départementales et puis par les livres que vous avez déjà cités. Et j'avais oublié, dans mon introduction moi-même, de citer la richesse des sources universitaires, hein. Je m'en suis beaucoup servi, par exemple pour des gens qui ont fait des travaux sur les rapports entre la sidérurgie allemande et française dans les périodes de guerre, etc. Il y a eu un tas de travail, dont le vôtre, hein, mais qui sont vraiment des sources très enrichissantes, hein, donc j'ai oublié de le dire tout à l'heure. Donc voilà. Il faut aussi s'intéresser à le seul prolongement à cette histoire, parce que le passé, ça compte toujours. D'abord, il y a toujours une usine qui existe encore, qui est celle de Rive-de-Gier, d'Industile, dont on a parlé, qui est une usine très ancienne, avec un matériel ancien, mais qui fabrique encore des produits de haut de gamme, je le disais tout à l'heure. Donc, il faut espérer qu'il faut maintenir ces produits, même si c'est actuellement des produits très spéciaux, dit de niche, qui peuvent compter. Hein. Ce n'est plus une production de masse, mais une production très spécialisée. L'histoire, c'est une histoire qui s'est fermé en grande partie, hein, c'est une période. Mais c'est quand même une histoire à raconter.
Eh bien, nous vous remercions et espérons que ce livre suscite des émules.
Merci.
On le rappelle, hein, définitivement pour terminer, La sidérurgie de la Loire 1815-2022, c'est paru aux Actes graphiques. Hein, donc ouvrage disponible. Et simplement parce que je crois qu'il y a de l'actualité aussi finalement vous concernant, puisque dans le cadre de l'exposition Saint-Étienne 1780-1856, Évolution, Révolution, Musée d'Art et d'Industrie et puis Courriot, Musée de la Mine, expo visible jusqu'au 13 juin prochain 2023, le pôle muséal de Saint-Étienne propose plusieurs conférences, certaines sont passées, et je crois que vous allez intervenir prochainement, Roland Foinel, ce sera en mois de janvier.
Oui, j'ai fait déjà deux conférences dans la période de novembre-décembre et la prochaine conférence qui se tient, je crois, au Musée de la Mine le 19 janvier 2023, bien sûr, aura pour thème la concentration des compagnies minières. Donc, et ensuite, dans le courant du premier semestre 2023, il y aura deux autres interventions, mais à Rive-de-Gier, sur le site du Gourmarin, qui est un site minier emblématique de la rationalisation des mines au milieu du 19e siècle, ainsi qu'une dernière intervention sur la gestion du canal de Givors, qui est une partie de l'histoire des transports de la Loire.
On note donc cette conférence du 19 janvier prochain qu'on aura sans doute l'occasion de rappeler. Dans ce cadre-là, d'ailleurs, une conférence aujourd'hui, ce 15 décembre, pourquoi pas, ceux et celles intéressés. Événement gratuit, c'est à 19h, tout à l'heure, à la Maison du Patrimoine et des Lettres, place Boivin à Saint-Étienne. Présentation de Voyage à Saint-Étienne de Fougeroux de Bandarois en 1763. C'est par François Marin. Ancien conservateur des métiers de Saint-Étienne qui interviendra sur cette question. Et pour les autres expos, on rappelle aussi bien sûr En Guerre d'Algérie, récits partagés toujours visible jusqu'à juin 2023 aux archives municipales de Saint-Étienne. En tout cas, vous avez toutes les actualités, les expos, les rendez-vous sur le site du Grémos, on le rappelle, grémos.fr, ainsi que les émissions mises en ligne et donc écoutables sur le site, ce site dédié. Merci à vous, on se retrouve donc pour la prochaine émission, ce sera l'année prochaine. Belle fin d'année à vous. Au revoir.
Au revoir. Au revoir.